Bonjour Christian Bourbon, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour. Bonjour à tous d'ailleurs. Christian Bourbon, je suis un Applou de très très longue date. J'avais votre âge quand je suis allé à l'école, rue de Corde, à Firminy. J'ai fait toutes mes études à Firminy, j'ai travaillé à Firminy. Je suis aujourd'hui toujours en activité, je suis commissaire aux comptes, c'est un métier très sérieux. Mais aussi, j'ai eu l'idée un jour d'aller voir en Afrique ce qui se passait parce qu'on me parlait des ONG. Je ne savais pas ce que c'était qu'une ONG. Alors j'ai décidé de partir en mission en Afrique. Et en Afrique, j'ai rencontré un monde différent, un monde avec des enfants fabuleux qui jouent, qui sont toujours heureux, qui ont le sourire. Et puis j'ai ramené plein d'histoires pour mes petits-enfants. Voilà. Et donc j'ai écrit des livres.
Pourquoi écrivez-vous des livres ?
Alors j'écris des livres pour transmettre, en fin de compte, des valeurs aux enfants. Et je me suis rendu compte que les petits-enfants africains étaient exactement comme vous. Ils ont les mêmes sensations, ils vivent dans des conditions très difficiles, mais ils ont toujours le sourire, ils vont à l'école. À l'école, il y a une discipline de fer. Ils sont 40, à peu près 40-50 à l'école. L'instituteur a ce qu'on appelle une badine. Alors vous ne connaissez pas, mais moi j'ai connu quand même où l'instituteur avait une grande règle. Et puis quand les enfants faisaient les sauts, ils prenaient un grand coup de bâton sur les doigts. Tu vois ? Et bien ça existe en Afrique aujourd'hui. Parce que quand il y a 40-50 enfants dans une classe, s'il y a du chahut, c'est impossible. Voilà, je transmets des valeurs, ces histoires. Je les raconte quand je vais aussi les rencontrer dans les écoles aux enfants. Je vais aussi dans les écoles africaines raconter les mêmes histoires et vous réagissez tous de la même façon. Donc en fin de compte, les enfants sont tous pareils, quel que soit le pays.
Qui sont les illustrateurs avec qui vous travaillez ?
Alors j'ai travaillé dans un premier temps avec Sophie Cour, qui est une Applouse aussi, une jeune femme qui vit ici. Et qui vivait à l'époque Boulevard Fayol, à Firminy, et qui fait des super beaux dessins, qui faisait des dessins avec des épices ou des bouts du tissu, des morceaux du sable que je lui ramenais. Et avec ça, elle composait les images, notamment le premier livre qu'il y a, Nani Edo, est composé avec tout un tas de matériaux qui viennent d'Afrique. Après, la deuxième illustratrice que j'ai rencontrée, parce que Sophie avait d'autres activités, ça a été Marjorie qui habite rue Lapra. Et Marjorie a fait les trois derniers livres, en fin de compte, les livres sur Salif Keïta, et puis sur, je ne me souviens plus le livre, sur Madagascar, Naomi.
D'où vient votre inspiration ?
L'inspiration est systématiquement africaine. Quand j'étais comme vous, j'étais plus petit, je devais avoir 4-5 ans, j'avais un vieux tonton là, qui était parti en Afrique, qui avait fait ce qu'on appelle les guerres coloniales, et c'était pas un militariste, il avait été envoyé en punition en Afrique. Et il me racontait toujours, quand il était à l'hospice, et il me racontait ses histoires, ses aventures qu'il avait eues en Afrique. Et en fin de compte, tout bêtement, il m'a mis l'envie un jour d'aller en Afrique. Et c'est resté dans ma tête pendant 50 ans. Je savais pas. Et puis un jour, les histoires de ce tonton me sont revenues dans la tête. Et là, je me suis dit, là, il faut y aller. Et je suis parti en Afrique sur les traces du tonton, notamment à Saint-Louis du Sénégal. J'ai fait Mauritanie, Mali, enfin des choses fabuleuses. Et l'inspiration vient. Dès que je suis en Afrique, automatiquement j'ai l'inspiration. Il y a plein de livres qui me viennent. Donc j'y vais pas trop souvent parce que si j'y allais plus souvent, j'écrirais sans arrêt.
Comment et où travaillez-vous ?
Alors je travaille rue de Corde à Firminy, dans une grande propriété qui était les anciens bureaux de Creusot-Loire à l'époque. C'est dans un grand parc. Et dans ce grand parc, à côté de l'usine, le matin, je suis réveillé par les chevreuils. Il y a des chevreuils qui viennent me dire bonjour. Ils sont à côté de la maison. Ils viennent à quelques mètres. Ils viennent manger des pommes. Il y a des écureuils, des hérissons, il y a des couleuvres. Il y a plein d'animaux qui sont dans Firminy, à la porte de Firminy. On a une nature fabuleuse qui est juste à côté de chez nous. C'est la vallée de Londane. C'est Londane qui coule, qui descend du Pila et qui nous amène tous ces animaux.
Quelle est votre journée type ?
Ma journée type, elle commence le matin, très tôt, 5h30, 6h, je me réveille, parce que quand on est vieux, on se réveille tôt. Je lis mon journal sur l'ordinateur, et puis après je déjeune, je vais faire un tour dans le parc, je regarde un peu les animaux, je vais travailler, je travaille jusqu'à 10h30, 11h du matin, et puis après derrière, l'après-midi, j'essaie d'écrire un petit peu.
Pourquoi réservez-vous parfois les bénéfices de la vente de vos livres à des associations ?
Ça a été systématique. C'est-à-dire que, j'ai une carrière professionnelle qui était bien remplie, j'ai bien gagné ma vie, j'ai travaillé beaucoup. Et j'estimais que aujourd'hui, la planète est en danger. Notre planète est en danger. Et je pense qu'aujourd'hui, les bénéfices donc, de ces livres sont systématiquement remis à une association qui s'appelle, une ONG qui s'appelle Planète Urgence. Alors maintenant, ça s'appelle Planète Solidaire. Et c'est venir en aide à des enfants. Deux choses. Il faut planter des arbres. Donc on plante des arbres. Chaque fois que vous achetez un livre, vous plantez un arbre, en fin de compte. Et puis aussi, on vient en aide à la scolarisation des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, très souvent, dans les écoles de brousse, c'est très, très rudimentaire. C'est très difficile. Donc, les enfants n'ont pas de moyens. Il faut savoir qu'ils n'ont pas de cartable. Très souvent, ils n'ont pas de chaussures. Ils doivent, le matin, ils doivent marcher des moments une heure pour aller à l'école. D'accord ? Ils ont un seul repas dans leur journée. Le matin, ils vont avoir du sorgho. Ça correspond du flocon d'avoine, hein, avec du lait de chèvre. Et puis, ils vont rester jusqu'au soir sans rien manger. Et ils ont une heure de route pour retourner chez eux. Et le soir, ils mangeront une petite bouillie, puis c'est tout. Vous voyez, c'est pas du tout comme chez nous. Hein. C'est très, très difficile. C'est pour ça que j'ai ramené plein de photos de mes missions. Vous pourrez les voir, elles sont affichées. Où on voit des enfants à l'école, comment ça se passe.
À qui s'adressent vos livres ?
Ils s'adressent... Alors, il y a une chose qui est assez paradoxale. Sur les premiers livres, les livres sont écrits en deux parties. Il y a une partie où il y a énormément d'images. C'est ce qu'on appelle l'oralité. L'oralité, c'est quoi ? C'est le grand-père ou la grand-mère qui raconte une histoire à un enfant qui ne sait pas lire. Il ne sait pas encore lire. 3 ans jusqu'à 6 ans. La deuxième partie, elle est faite avec des lettres accrochées, comme vous apprenez quand on apprend à lire et à écrire. Et donc l'enfant à 6-7 ans, quand il apprend à lire, il s'approprie son livre. Il commence à lire l'histoire, développer, et donc il peut comprendre l'histoire et la lire. Donc deux choses, le côté oral et puis le monde de l'écriture.
Vous présentez Sur la route de Saint-Thé, de quoi ça parle ?
Alors Sur la route de Saint-Thé, c'est le tome 2 en fin de compte d'un premier livre qui s'appelle Salif Keïta, la naissance d'une légende. J'ai essayé d'imaginer comment on pouvait écrire une légende sur Salif Keïta. Il m'est arrivé une histoire, ça se passe au Bénin, à Tanguieta. À Tanguieta, je vais voir un petit roi dans un petit village. Et ce petit roi, on parlait de ce que voyaient les yeux, des mots, c'était pas tout à fait vrai ce qu'on voyait ou ce qu'on entend. Et surtout sur les yeux. Il me dit, tu vois là-bas, c'est peut-être pas une vache que tu vois, c'est peut-être un phacochère. Ah bon ? Et ce roi, malicieusement, m'a hypnotisé. Et il a fait en sorte que son visage, je vois son visage comme le visage d'une panthère noire. Alors tu te rends compte, je suis à côté d'un monsieur, je suis à 1 mètre de lui, et son visage se transforme en panthère noire. Ah ! Je suis médusé. Alors il m'a expliqué, il m'a dit non, je t'ai hypnotisé. Tu as simplement vu ce que je voulais que tu vois. Mais quand je reviens en France, je me dis, mais une panthère noire, mais nous on a ça à Saint-Étienne, la panthère noire. Et donc j'ai eu l'idée d'écrire l'histoire de la panthère noire de Salif Keïta. Et sur la route de Saint-Thé, c'est après derrière comment Salif Keïta est arrivé à Saint-Étienne. Et c'est une vraie histoire par contre. Hein. Salif Keïta est arrivé avec une histoire fabuleuse. Il est arrivé de Bamako. Enfin, oui, à côté de Bamako, l'aéroport, il est arrivé à Paris. Seulement, le problème, personne ne l'attendait parce que les gens l'attendaient. Il y avait deux aéroports à Paris, il y a le Bourget et Orly. Les gens l'attendaient au Bourget et lui est arrivé à Orly. Et quand il est arrivé de son Afrique natale, personne ne l'attendait. Il est allé voir un autre Africain, parce que je crois que c'était un Tunisien ou un Rémois, je ne me souviens plus. Mais un chauffeur de taxi, il lui a dit, je voudrais aller à Saint-Étienne. Mais il y a très très longtemps. Et pour venir à Saint-Étienne, il y avait 6-7 heures de route, hein. Et ça coûtait très cher. Et le chauffeur de taxi a été séduit par ce petit Africain là qui lui expliquait qu'il joue au football. Le chauffeur de taxi aimait bien Reims à l'époque, c'était une grande équipe de football. Et le chauffeur a décidé de l'emmener à Saint-Étienne. C'était une course qui coûtait très cher, 1000 francs à l'époque, c'était très 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 cher. Et donc j'ai essayé d'expliquer cette histoire du taxi, cette aventure d'un petit Africain qui arrivait à Saint-Étienne en connaissant personne. Aujourd'hui, les gens de la SS ont repris ce livre et puis ils le font diffuser dans les écoles parce qu'on parle de ça traite aussi de l'immigration en fin de compte. Comment un petit Africain déraciné va appréhender la France. Parce que quand il arrive de chez lui à Bamako, il fait 40 degrés et là, il tombe à 15, 16 degrés. Ça fait un choc, hein. Voilà.
Pourquoi êtes-vous ici à la fête du livre jeunesse de Firminy ?
Ben je suis à la fête du livre, d'abord parce que Firminy c'est ma ville. J'adore discuter avec vous, avec les enfants. Ça, c'est fabuleux pour moi. Et je vous transmets une histoire. Et cette histoire, en fin de compte, c'est une histoire qui est importante parce qu'elle vous dit une chose. C'est être tourné vers les autres, tourner, ouvrir son cœur aux autres et être tourné vers les autres. C'est ça, en fin de compte, qui est important. C'est apprendre à ressentir les choses. Et pour apprendre à ressentir les choses, eh bien, il faut tourner, discuter et tourner vers les enfants.
Êtes-vous content d'être ici ?
Ah, je suis très, très heureux d'être avec vous parce que vous me rendez un sourire extraordinaire. Et, n'est-ce pas ? Et ces beaux sourires, ça me récompense de tout. C'est ça la vérité.
Quel est votre livre préféré ?
Ah, dans les livres préférés, j'ai un livre que j'adore. C'était un livre de c'est Kazantzaki, c'était Zorba. Zorba, c'est un livre parce qu'il parle de la Grèce. Et puis là, j'aime bien la Grèce, la Crète, c'est beau. Donc Zorba, oui, c'est un très beau livre. Alors dans les livres que j'ai écrits, je crois qu'on a toujours le dernier livre en fin de compte. Mais le premier, c'est toujours l'histoire, le premier livre, c'est Nanny Edo. Et Nanny Edo est un livre très compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez pas le comprendre. Le livre, il est écrit en trois parties. La première partie, si vous voulez, le premier niveau de compréhension, c'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa grand-mère. Bon, ben c'est tout simple. Le deuxième aspect, c'est cette grand-mère qui est partie. La petite fille va aller à sa recherche en fin de compte. Et puis, cette grand-mère qui est partie, la petite fille est très triste, en fin de compte. Et derrière, elle va pouvoir matérialiser sa douleur de la perte de sa grand-mère, parce qu'elle va la matérialiser dans un pot sur lequel sa grand-mère est dessinée. Alors, quand vous y serez beaucoup plus grand, vous aurez 18, 19 ans, vous verrez des études, et vous verrez, c'est sur Viktor Frankl, qui est sur la logothérapie. Comment on peut être guéri d'une grande douleur ? Mais là, on est plus grand après. Hein.
Ouais, là, on est un peu plus grand. Allez, on va poursuivre notre rencontre avec Christian Bourbon. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Ayla ?
Maintenant, nous allons débuter un portrait chinois. Si vous étiez une couleur, ça serait laquelle et pourquoi ?
Oh, la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Voilà, ce serait la couleur verte. J'aime bien la couleur verte. Et puis, les verts, c'est la SS. Ouais, j'aime bien. Le vert, ça me porte chance.
Si vous étiez un personnage littéraire ou de BD, vous seriez lequel et pourquoi ?
Franklin. Pourquoi ? Parce que il y a plein de choses intéressantes avec les dessins, tous les dessins qu'il y a de Franklin. Maintenant, vous en avez un qui est génial aussi, que j'adore, c'est Tintin, Hergé. Je ne sais pas si vous avez regardé dans Hergé. Ce que j'aime bien, c'est le mouvement. Vous regarderez dans Hergé, il y a toujours des choses qui sont en mouvement, qui tombent ou qui sont censées bouger. Et Hergé, c'est au début, quand j'étais comme vous, je n'avais pas compris ça. Et bien Hergé a toujours saisi le mouvement. Vous verrez, tous ses dessins sont en mouvement. C'est ça que j'adore.
Si vous étiez un mot, lequel et pourquoi ?
Je sais pas pourquoi. As, peut-être. Un as. Toujours pareil, ça porte chance. Comme les cartes, tu sais.
Si vous étiez un objet rattaché à votre travail, ça serait lequel et pourquoi ?
Un crayon avec une gomme, tu sais, parce qu'on peut écrire et puis aussi on peut gommer ce qu'on a écrit. ouais, c'est ça, ouais, un crayon avec une gomme au bout.
Merci. Avez-vous quelque chose à rajouter ?
Bah oui, c'est que vous êtes formidable, vous posez des belles questions, vous exprimez avec un micro, c'est pas toujours facile. Sachez que de plus en plus, c'est maintenant que c'est comme ça, il faut savoir s'exprimer. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'examens où il y avait des oraux. Enfin, quand on se retrouvait devant on tirait une question et puis il fallait parler à un professeur. Et des moments, on était très intimidés. Eh bien, avec ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous exprimer, d'apprendre à parler, et vous verrez que ça vous servira dans vos études par la suite. L'oralité, ouais, l'oral. Il faut bien savoir s'exprimer pour être compris.
Eh ben merci Christian Bourbon d'être venu à cette table d'interview. Merci Sam, merci Ayla d'avoir participé. On rappelle qu'on va vous retrouver, vous et d'autres camarades du Conseil Municipal Enfants, tout au long de cette journée, avec ces directs sur l'antenne de Radio Ondaine et ces rencontres avec les auteurs que nous avons préparés à l'occasion d'ateliers. Merci Christian Bourbon.
Merci à vous tous et merci de m'avoir accueilli.